zèle. J'suis né bling bling que l'âle, ni dread zèle. Égoïste, j'suis pas là pour ceux qui voudraient de l'aide. J'attends que ma main se tende toute seule.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. L'émission mensuelle d'Amnesty International Évreux sur la promotion, la défense et toutes les actions par rapport aux droits humains, comme tous les mois. Avant peut-être de passer à deux fois par mois, sait-on jamais, c'est dans les projets. Peut-être qu'on sera plus souvent à l'antenne, on ne sait pas encore. Mais bon, pour l'instant, c'est une fois par mois. Donc ce soir, avec moi autour des micros, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Ronan.
Bonsoir, qui suis défenseur aussi pour passer deux fois par mois.
Oui, et Ronan, pour ne rien vous cacher, en fait, il a abrégé ses vacances en Bretagne pour être avec vous ce soir. Il est vraiment dévoué.
Il est fou.
Il est revenu exprès de Bretagne aujourd'hui.
Non.
Il avait encore 3 mois de vacances, normalement.
Non, je suis rentré cette nuit, mais... Non. Ça fait plaisir d'être là. Mais
bon. Bon, voilà, c'était l'essentiel. Bien, donc ce soir à l'émission, on va vous parler bien sûr de ce qui vient de se passer, le terrorisme qui vient de se passer à Bruxelles. On va vous en dire quelques mots. De l'état d'urgence aussi par rapport à ça, et qui ça fait lien avec ce qu'on avait dit le mois dernier. On a longuement parlé de notre émission du mois de février. Je rappelle qu'elles sont en podcast sur le site de Principe Actif, hein, www.principeactif.net. Pour réécouter nos émissions, on a 3 ou 4 ans d'émissions en archive, donc n'hésitez pas. Et donc ça fait lien avec cette émission-là, et on va vous parler aussi de la situation en Syrie avec Claire-Lise, assez longuement sur ce drame des réfugiés qui continue, et les aberrations des autorités européennes qui continuent elles aussi par rapport à ça. Et on va vous parler effectivement oui de la Syrie comme on montre Ronan. On va vous parler aussi de très bonnes nouvelles. Il y a Sabine qui va vous faire un petit topo sur les succès qu'on a obtenus par rapport à la promotion des droits des femmes suite à une campagne de longue haleine qui est en train de se terminer en ce moment avec Amnesty. Mais on a obtenu un certain nombre de choses. Donc comme on le dit toujours, bien sûr qu'il faut parler des choses, de tout ce qui ne va pas, mais il faut aussi parler de ce qu'on obtient et de ce qui progresse.
Et nous les hommes, on en a pas, non?
Les droits des hommes, bah oui, non, mais enfin, c'est les êtres humains. Mais là, on parle des droits des femmes, quand même. Les droits des femmes.
Je sais bien, c'est pas.
Les femmes ne sont pas sur un plaid d'égalité avec les hommes. On t'apprend rien.
C'est pas pour 8 mars.
On t'apprend rien. Et donc, nous, on s'attache aussi à chaque émission. Vous l'avez déjà remarqué, à faire les informations sur ce qu'on obtient, sur ce qui va bien et ou ce qui va mieux, même si c'est jamais suffisant, même s'il reste beaucoup de choses. Mais bon.
Des fois, c'est moins pire.
Des fois, c'est moins pire. Voilà pour dire. En bon français, comme dit Clarisse, c'est moins pire. Donc on a des bonnes nouvelles sur les droits des femmes, c'est Sabine qui s'est réservé ce sujet-là. Et puis on va vous parler de nos actualités locales, bien sûr, on va vous parler de la situation dramatique de certains réfugiés sur Évreux. C'est Clarisse qui a quelques informations à vous passer. Et puis, ce sera l'heure de finir l'émission, je pense qu'on arrivera au bout à ce moment-là. Donc voilà, quelques mots sur ce qui vient de se passer à Bruxelles. Bon, bien sûr, ces attentats terroristes sont dans la droite ligne de ce qui s'est passé à Paris, de ce qui vient de se passer aussi au Pakistan. Il y a eu, je n'ai pas le chiffre en tête, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, ce week-end, il y a eu des dizaines de jeunes qui sont morts avec un kamikaze dans un stade de football, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, il y avait des remises de trophées à ce moment-là pour des jeunes. Et puis, il y avait tout un parc où les enfants faisaient de la balançoire.
Mais je crois que 80, un truc comme ça.
80. Ouais, il y a eu aussi des attentats très récemment en dehors de Bruxelles, là, en Irak, bien sûr. Il y a eu aussi 20 ou 25 morts, là, il n'y a pas longtemps. Bizarrement, d'ailleurs, c'est quand il y a des attentats au Pakistan ou en Irak ou dans d'autres pays. On en parle beaucoup
mais
moins.
Il n'y a pas de Français, peut-être.
On en parle beaucoup moins que quand ça monopolise l'information en Belgique ou à Paris.
Ouais. S'il y avait des Français européens parmi les victimes, on en parle peut-être
Le traitement de l'information n'est pas égalitaire non plus. C'est comme le droit des femmes. Donc voilà, et donc pour tout ça pour vous dire que moi j'ai entendu à la radio juste après les attentats de Bruxelles un soi-disant expert, j'aime bien les experts qui parlent à la radio parce que des fois ils sont experts comme moi je suis je sais pas quoi.
Cordonnier,
voilà, merci. Et qui disait que bien sûr ce qui venait de se passer à Bruxelles montrait que tous les gens qui protestaient contre la prolongation de l'état d'urgence et l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, ça prouvait bien que ces gens-là effectivement n'avaient rien compris, la preuve ce qui s'est passé à Bruxelles. Alors j'ai quand même fait un bond sur mon siège, j'étais dans la voiture. J'ai quand même fait un bond sur mon siège en me disant qu'effectivement, cet expert-là, lui, par contre, n'avait rien compris. Pour parler simplement, parce que si l'état d'urgence était aussi efficace que ça, si les mesures qui avaient été prises étaient aussi efficaces que ça, et peut-être que ce qui s'est renouvelé à Bruxelles ne serait peut-être pas renouvelé de la même façon. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas du tout, effectivement, encore une fois, de pister les gens, de surveiller les gens et d'atteindre à leur liberté sous prétexte de leur assurer la sécurité. Encore une fois, on a longuement développé ce sujet-là il y a un mois, on ne va pas revenir dessus. J'avais même fait une petite séquence de politique fiction qui vous montrait ce que pouvait faire l'État français avec l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, et ça fait un peu froid dans le dos. Et donc voilà, on ne va pas revenir dessus, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Bien sûr que les États doivent protéger la sécurité de leurs citoyens. Ça, Amnesty International fait partie des associations et des ONG qui ne disent jamais le contraire, bien évidemment, à ce genre d'affirmation. Oui, on doit protéger la sécurité des citoyens. Oui, on a déjà toutes les armes pour le faire. Dans la même chronique, j'avais listé tout l'historique des mesures qui ont été prises depuis les années 80 en France contre le terrorisme. Et toutes les mesures de l'état d'urgence sont déjà dans ces lois-là. Donc l'état d'urgence n'apporte rien de neuf. Simplement, il faut appliquer les lois, il faut faire que les services de police, de justice, etc. puissent fonctionner correctement, donc que les gens soient en effectif suffisant, puissent collaborer entre les différents pays européens. Donc il faut des moyens. Et puis quand les États, effectivement, n'ont pas les moyens de financer correctement leurs missions, ce qu'on appelle les missions régaliennes de l'État, eh bien on arrive à des situations comme ça. Ce n'est pas du tout un problème de maintenir l'état d'urgence, qui est une bêtise sans nom à l'heure actuelle. C'est simplement d'appliquer ce qu'on sait déjà faire et qui est malheureusement mal appliqué. Je ne dis pas qu'il est volontairement mal appliqué, mais qui est mal appliqué et qui donc aboutit à des situations comme ça. Après, sur le d'où vient le terrorisme, et bon, c'est un vaste débat. On va tout à l'heure parler avec Claire Lys de la situation en Syrie. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont faciles à déduire de la pourquoi le terrorisme, effectivement, sévit, c'est d'une façon aussi répétée, aussi cruelle, aussi absurde et aussi attentatoire aux droits fondamentaux qu'à l'heure actuelle. Mais ça n'arrive pas non plus comme un cheveu sur la soupe et par l'opération de je ne sais pas qui, mais ça aboutit, c'est aussi une conséquence d'une situation de dégradation des droits humains qui se généralise et qui s'amplifie au fil du temps. Ça fait un petit lien sur ce que je vais vous dire aussi tout à l'heure, qui est l'apparition du rapport annuel d'Amnesty, rapport annuel 2015-2016, qui est paru fin février et qui sera disponible sous forme de bouquin très 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 prochainement, là, à la fin de, enfin, au tout début du mois d'avril. Mais on va déjà vous en dire quelques mots. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. La situation de l'état d'urgence n'est pas une réponse pour se protéger contre le terrorisme. La preuve, ce qui vient de se passer, c'est tout à fait autre chose qu'il faut faire. Et il faut surtout pas croire que des solutions aussi simplistes permettent d'aboutir à des solutions intéressantes. Voilà. Après cette introduction un peu grave, il y a Sabine qui va vous dire des choses beaucoup plus positives.
Oui, quelques petits succès pour le droit des femmes. Hein. Donc, la journée de la femme, c'est le 8 mars. Donc, à cette occasion, on a fait un petit peu le
bilan.
Le bilan et des actions qui ont été faites, que vous avez faites à nos côtés avec Amnesty et qui ont changé la vie de certaines femmes à travers le monde. Donc, vous avez été des milliers à avoir défendu les droits sexuels et reproductifs par le biais de la campagne « Mon corps, mes droits ». Qui a été lancée en 2013 et celle-ci part du principe que nous avons tous le droit de prendre des décisions en ce qui concerne notre santé, notre corps, notre sexualité, notre vie reproductive à l'abri de toute crainte et de toute violence. Donc voici 9 exemples montrant que vous avez défendu tous ces droits et contribué à lever les obstacles rencontrés par les femmes et les filles à travers le monde. Vous avez été plus de 250 000 à avoir agi pour protéger les droits sexuels et reproductifs des jeunes. Environ 280 000 personnes vivant dans plus de 165 pays ont appelé leur gouvernement à protéger les droits sexuels et reproductifs des jeunes, notamment leur droit d'accéder à la contraception et aux services de santé sexuelle. Ça nous paraît délirant, mais dans certains pays, c'est loin d'être gagné. En avril 2014, le secrétaire général d'Amnesty International, Salil Chetty, a remis leur signature à Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, lors de la session de la Commission de la Population et du Développement des Nations Unies, qui se tenait à New York. En deux, les autorités népalaises ont enfin reconnu le prolapsus utérin comme un problème relevant des droits humains.
Dis-moi,
j'allais poser la question.
Dis-moi, Sabine,
ça n'est pas de moi.
Dis-moi, Sabine, c'est une émission sur les droits humains ou une émission médicale?
C'est des mecs qui ont écrit ça. C'est pas possible.
Elle n'avait pas lu ce qu'elle était en train de lire.
Non, mais non, viens de me le passer.
Non, mais moi, je l'avais lu avant. Donc,
et j'ai changé mon thème.
Un peu de sérieux.
En tout cas, au Népal, à l'issue d'un travail de pression soutenu, mené par des militants locaux des droits des femmes avec l'aide d'Amnesty International, le gouvernement du Népal a intégré la prévention du prolapsus utérin, problème de santé handicapant qui peut toucher les femmes pendant ou après une grossesse, dans son plan d'action relatif aux droits humains en juillet 2014. Cette décision a eu lieu peu de temps après que nous avons remis aux autorités une pétition signée par plus de 100 000 d'entre vous.
Le prolapsus utérin dont on parle, c'est en fait le fait qu'au Népal, les femmes qui portent des charges très lourdes, parce qu'elles font énormément de travaux physiques, entre autres de ramassage de bois, ont des descentes d'organes, oui, dont qui touchent en particulier l'utérus. C'est ça.
Et ils font beaucoup de fausses couches.
Merci pour l'explication.
En trois, vous avez contribué à empêcher l'Espagne de revenir en arrière sur l'avortement. Quand l'Espagne a voulu rendre plus restrictive la législation sur l'avortement en décembre 2013, 133 400 sympathisants d'Amnesty International se sont mobilisés au cours des mois qui ont suivi. En septembre 2014, le gouvernement a renoncé aux modifications qu'il avait proposées. En quatre, votre soutien a aidé à convaincre des États de s'élever contre l'interdiction totale de l'avortement au Salvador. L'intense travail de campagne que nous avons mené, notamment en 2014, lors du lancement de notre nouveau rapport sur le Salvador, a incité plusieurs gouvernements à agir. Le mois suivant, aux Nations Unies, l'Australie, la République tchèque, l'Islande, la Slovénie et l'Espagne ont demandé avec force au gouvernement du Salvador d'abroger l'interdiction totale de l'avortement dans le pays. Dans le cadre de celle-ci, les femmes qui font une fausse couche peuvent être condamnées à plus de 40 ans de prison. On est sur une autre planète quand même. Hein.
Donc, mais non. Non. On est chez nous. Voilà. On est sur la Terre.
Donc, faut continuer. Hein. C'est pas gagné. Vos signatures en cinq ont poussé des ministres tunisiens à promettre de protéger les victimes de violences sexuelles. Alors, c'est des promesses. J'espère qu'elles seront tenues. Vous avez été 198 000 à appeler l'Algérie, le Maroc et la Tunisie à protéger les femmes et les filles ayant subi des violences sexuelles. Lorsque nous avons présenté vos signatures aux autorités tunisiennes en novembre 2014, la secrétaire d'État chargée de la femme et de la famille et le ministre de la Santé ont promis de protéger les victimes de violences sexuelles. Jamais un tel engagement n'avait été publiquement. Il faut continuer à agir. Stop aux violences sexuelles contre les femmes en Tunisie. Demandez au Premier ministre d'agir. Signé. D'ailleurs, il y a une loi qui criminalise la violence faite aux femmes en Algérie là, depuis le mois de décembre. Donc c'est une avancée aussi. En 6, les autorités salvadoriennes ont libéré Guadeloupe. On en a souvent parlé, on avait demandé à ce que vous agissiez. Et grâce au dévouement et à l'action des militants, au Salvador, Carmen Guadalupe Vázquez a été graciée et elle est sortie de prison en février 2015. Elle avait été condamnée à 30 ans d'emprisonnement en 2007 pour des accusations de meurtre forgées de toutes pièces, après avoir fait une fausse couche à 18 ans. Elle était soupçonnée d'avoir recouru à un avortement, ce qui est interdit au Salvador, quelles que soient les circonstances. En avril 2015, nous avons remis aux autorités une pétition signée par 300 000 d'entre vous réclamant la fin de l'interdiction de l'avortement au Salvador. En 7, vous avez contribué à convaincre les Irlandais que les femmes ayant besoin d'avorter ne sont pas des criminels. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à avoir relayé notre message. Ce n'est pas une criminelle parce qu'elle a besoin d'avorter. Ce n'est pas une criminelle. Enfin bon, voilà.
Sabine traduit du langage informatique au micro, c'est un peu difficile. Voilà. Bah, ça fait rien, continue.
Je crois qu'on a compris. En geste. Hein, voilà, enfin bon. Des centaines de milliers ont agi, c'est bien. Donc, faut continuer. Hashtag. Ce n'est pas une criminelle parce qu'elle a besoin d'avorter.
Ouais, ça, c'est Twitter, voilà. Ça, hashtag.
Voilà, ils ont tweeté. Ensemble, nous avons suscité un débat en Irlande, fait changer l'opinion publique et obtenu le soutien de professionnels, de santé et de personnalités. Grâce à votre aide, nous sommes sur le point de faire pencher la balance en faveur de l'avortement en Irlande, ce qui encourage les initiatives locales pour obtenir une modification de la Constitution qui devrait enfin supprimer la législation régressive du pays en matière d'avortement. Faut continuer à agir. Dites à l'Irlande de ne plus fermer les yeux et de modifier enfin la loi sur l'avortement. Continuez à signer parce que ce n'est pas encore gagné. Votre soutien nous a aidé à persuader le gouvernement du Burkina Faso de prendre des mesures concrètes pour mettre fin au mariage d'enfants. En décembre 2015, le Burkina Faso a adopté une stratégie nationale et un plan d'action sur 3 ans pour prévenir et éliminer les mariages d'enfants dans le pays. Il reste encore beaucoup à faire, mais il s'agit là d'une première étape vers l'éradication définitive de cette pratique. La stratégie et le plan d'action font suite à l'engagement pris publiquement par des ministres et par le roi traditionnel de soutenir la campagne. Mon corps, mes droits, en luttant contre les obstacles auxquels les femmes et les filles sont confrontées pour accéder aux services et à l'information en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc continuez à agir, Burkina Faso, demandez au président de lever les obstacles à la contraception. Il y a des pétitions encore en cours, allez-y, signez. En 9, vous êtes des milliers à avoir brisé le silence entourant les questions liées au sexe, aux relations et à la reproduction. Plus de 100 000 jeunes ont pris l'initiative d'engager des conversations abordant des sujets traditionnellement tabous, tels que le harcèlement sexuel dans les établissements scolaires, le viol, les mariages d'enfants et la sexualité. Grâce au support d'informations produits par Amnesty International et aux ateliers de formation mis au point dans le cadre de la campagne « Mon corps, mes droits », plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées contre les attitudes discriminatoires et la violence liée au genre. Des jeunes ont agi par le biais d'ateliers, de vidéos, de débats, ainsi qu'en utilisant le théâtre, la poésie, la chanson et la danse. Dans les zones rurales du Zimbabwe, certains ont ouvert des centres d'émancipation dans les écoles, qui constituent un espace où les jeunes filles peuvent évoquer en toute sécurité le sexe, les relations et la grossesse. Voilà, des petites avancées. Il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de choses à défendre, mais bon.
Ben c'est pour ça qu'on existe.
Déjà, ça, c'est. Donc, merci à
tous ceux qui ont agi. C'est pour ça qu'on existe.
Et continuez d'aller signer, continuez de les enquiquiner pour qu'ils changent d'avis.
Continuez à nous soutenir. Et encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter par mail. On ne l'a pas répété la dernière fois, mais notre mail, c'est amnesty, avec un Y à la fin, .evreux@gmail.com. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des demandes d'informations, on se fera un plaisir de vous répondre.
J'ai presque envie de lire quand même sur l'Algérie, après je vous abandonne.
Bon.
Hein, la loi qui criminalise la violence faite aux femmes, qui a été adoptée par le Sénat le 10 décembre 2015 et qui modifie le code pénal. Elle introduit la notion de harcèlement sexuel et punit toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique ou de maltraitance, notamment en cas de récidive. Quiconque porte volontairement des coups à son conjoint, surtout conjointe hein, en l'occurrence, en fonction des blessures de 1 risque en fonction des blessures de 1 à 20 ans de prison avec la réclusion à perpétuité en cas de décès. Selon des chiffres officiels, 7375 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en Algérie au cours des 9 premiers mois de 2015. Fait un petit peu beaucoup. Un autre article prévoit 6 mois à 2 ans de prison pour quiconque exerce sur son épouse des contraintes afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières. l'Algérie devient le deuxième pays du Maghreb, après la Tunisie, à criminaliser les violences contre les femmes. Donc c'est une belle avancée.
Parce que dis-moi Sabine, il y a des pays où la violence contre les femmes n'est pas considérée comme un crime.
Mais non.
On vit une époque formidable quand même.
Ben là c'était pas... Ouais. C'était normal.
Ben oui.
Mais... Au Bangladesh, une femme qui refuse un mariage forcé, elle a droit à un viol collectif pour la punir.
Ouais.
Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est pas encore gagné. Hein.
Ouais.
C'est des petites avancées, mais il faut continuer
c'est clair.
À soutenir, à se battre. Donc voilà.
C'est clair. On avait prévu d'entamer un autre sujet, mais on va peut-être écouter un peu de musique quand même tout de suite, parce que je vois que déjà il s'est passé 20 minutes d'émission. Donc une petite pause musicale, je pense que c'est pas inutile tout de suite, et on vous retrouve juste après.
Et moi je vous dis bonsoir et au mois prochain.
The band is playing Dixie. A man's got his hand outstretched. Could be a faker. Could be the local priest. You know, sometimes Satan comes as a man of peace. We got the sweet gift of Gabby. Got a harmonious tongue. Song of love that ever has been sung. Good intentions into evil. Both hands be full of grease. You know, sometimes Satan comes as a man of peace. Well, first he's in the background and then he's in the front. Both eyes are
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, pour son émission mensuelle sur les droits humains. On vient d'écouter sur le disque d'Amnesty, qui est sorti il y a quelques années, les chansons des reprises des chansons de Bob Dylan, Chimes of Freedom, c'est le nom du disque. On vient d'écouter une reprise qui s'appelle Man of Peace et qui était interprétée par Joe Perry. Juste un commentaire, parce que je l'ai choisi un petit peu par rapport à l'actualité. Cette chanson dit, dans son refrain, parfois Satan prend les traits d'un homme de paix. Donc j'ai trouvé que par rapport à ce qui se passait, c'était quelque chose voilà, de symboliquement en rapport. Voilà. Eh bien, on va vous parler de la situation des droits de l'homme. Je trouve ce qui n'est pas original, parce que tous les mois, on vous en parle avec Amnesty, je suis bien d'accord. Mais vu sous l'éclairage d'un éclairage très amnistien, puisque c'est la publication, comme je vous le disais en début d'émission, la publication là, en ce moment du rapport annuel 2015-2016, qui fait c'est l'état du monde vu par Amnesty, et ça reprend la situation des droits de l'homme dans l'intégralité des pays, qui est dans ces pays-là, des sections d'ailleurs ou non d'Amnesty International. Et donc voilà, ça fait un petit bilan, c'est un gros bouquin, un petit bilan et de cette situation-là. Et c'est juste le résumé, bien évidemment, que je vais vous lire. On ne va pas vous lire les 250 pages, hein, Carlis. On ne lira pas les 250 pages du rapport.
Non,
il n'y en a pas plus que ça.
Peut-être, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore vu, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore vu sous forme de bouquin.
Ouais. Voilà. Il fait 450 pages.
Donc, bien évidemment que la situation des droits humains à l'heure actuelle dans le monde n'est pas plus brillante que ce qu'elle est en Europe, il faut être lucide. Donc, le rapport dit la chose suivante, l'introduction. Les droits humains sont en danger. Ils sont méprisés par un grand nombre d'États. La défense des intérêts nationaux qui imposent des mesures sécuritaires draconiennes nuisent aux libertés et aux droits fondamentaux. En 2015 et en ce début d'année 2016, la défense des droits humains est en péril. Des millions de personnes subissent les violences d'États et de groupes armés. Des gouvernements veulent faire passer la protection des droits humains pour une menace pour la sécurité, la loi, l'ordre ou encore les valeurs nationales. Un grand mouvement insidieux met en péril les droits humains partout dans le monde. Des gouvernements s'en prennent délibérément aux institutions censées protéger les droits fondamentaux. Nombre de pays refusent de leur allouer des fonds suffisants ou encore choisissent de n'en faire aucun cas. Ce sont non seulement nos droits qui sont menacés, mais aussi les lois et le système qui les protègent. Plus de 70 années de travail acharné et de progrès humains sont en danger. Les organes de défense des droits humains des Nations Unies, la Cour pénale internationale, on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, et des mécanismes régionaux tels que le Conseil de l'Europe et le système interaméricain des droits humains sont fragilisés. Face à cette terrible situation, les gouvernements doivent soutenir politiquement et financièrement les systèmes créés pour garantir le respect du droit international et la protection des droits des personnes. Alors le rapport cite quelques chiffres, un petit résumé, 10 chiffres à connaître sur l'année 2015. 113. La liberté d'expression et la liberté de la presse continuaient d'être soumises à des restrictions arbitraires dans au moins 113 pays. Il doit y en avoir 195 pays à l'heure actuelle dans le monde, je crois, quelque chose comme ça. On m'arrêtera si je dis des bêtises. Mais... 60 millions. On comptait dans le monde plus de 60 millions de personnes déplacées, dont beaucoup l'étaient depuis des années. 30 gouvernements, peut-être même plus, ont obligé, en toute illégalité, des réfugiés à retourner dans des pays où ils étaient en danger. Ça me rappelle quelque chose dont Clarisse va vous parler tout à l'heure. 36. Des groupes armés ont commis des exactions dans au moins 36 pays. Évidemment, ça ne s'est pas arrangé depuis la publication du rapport. 156. Au moins 156 détenus des droits humains sont morts en détention ou ont été tués. 61. Dans 61 pays, voire plus, des personnes qui n'avaient fait qu'exercer leurs droits et se prévaloir de leur liberté sont devenues prisonniers d'opinion quand les autorités les ont incarcérés.
Ce n'était pas mauvais quand même, hein, parce que selon l'ONU, il y a officiellement 197 pays dans le monde.
Ah, j'avais dit 195. Je suis pas tombé loin.
Non, t'es pas mauvais. Hein.
C'est lesquels les deux qui manquent ?
On va faire un quiz.
Faites comme moi et voir sur Internet.
Considérant qu'il y a 197 pays, trouvez les deux qui manquent. C'est une question. À la, comment il s'appelait ? Je sais plus, l'humoriste. 122. Revenons-en au sujet. Dans au moins 122 pays, des personnes ont subi des actes de torture et d'autres mauvais traitements. 122 sur 197, hein, quand même. 19. Des crimes de guerre et d'autres violations des droits de guerre ont été commis dans au moins 19 pays. 20. Dans 4 pays ont adopté ou promulgué en 2015 des lois reconnaissant le mariage ou d'autres formes de relations entre personnes de même sexe, portant au moins à 20 le nombre de pays déposant d'une législation ou de projets de loi en ce sens. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est le nombre de pays qui ont adopté une législation permettant le mariage de personnes du même sexe. Ça, c'est un progrès par contre, par rapport aux droits humains. 55% des procès iniques ont eu lieu dans 55% des pays au moins. Lorsqu'un procès n'est pas équitable, personne n'obtient justice, ni la personne inculpée, ni la victime, ni la société. Le rapport continue, la plus grave crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'année 2015 a été marquée par la pire crise de réfugiés depuis 1945. Un nombre sans précédent de personnes fuyant leur pays sont arrivées en Europe en quête d'un lieu sûr. Certains pays du Moyen-Orient, d'Asie et de Sud-Est et d'Afrique continuent néanmoins d'abriter la grande majorité des réfugiés du monde. Les pays doivent donner plus de protection, plus d'accueil et plus d'accès à ces personnes afin de leur permettre de recommencer leur vie. Une société civile attaquée de toutes parts. Un certain nombre de gouvernements prennent pour cible les militants, les avocats et les personnes engagées pour la défense des droits humains. Au lieu de reconnaître le rôle essentiel de ces personnes dans la société, de nombreux gouvernements ont entrepris d'étouffer toute voix critique. Ils enfreignent leur propre législation dans leurs opérations de répression contre la société civile. Cette situation est en partie le fait de la réaction de plusieurs gouvernements aux menaces croissantes en matière de sécurité apparues en 2015. De nombreux gouvernements se sont fourvoyés dans leur réponse face au terrorisme en étouffant la société civile et en bafouant, parfois, leur propre législation. En voulant lutter contre cette menace, ils s'en sont pris au droit à la vie privée et au droit à la liberté d'expression. Dans certaines parties du globe, les droits humains ont même été présentés comme des menaces à la sécurité nationale, à l'ordre public et aux valeurs nationales. Les Nations Unies et leurs différents organes de protection des droits humains et des réfugiés ont gravement souffert en 2015 de l'hostilité et de la négligence de gouvernements récalcitrants. De nombreux États ont volontairement entravé ou bloqué l'action des Nations Unies. Le conflit syrien, dont on va parler tout à l'heure, en est un terrible exemple. Le prochain secrétaire général des Nations Unies, qui sera élu à la fin de l'année, héritera d'une organisation qui a accompli beaucoup de choses, mais qui a désespérément besoin d'un nouvel élan. Les États membres et le Conseil de sécurité de l'ONU doivent faire preuve de courage pour les années qui viennent. Les États membres ont une chance historique cette année de donner un nouveau souffle aux Nations Unies. Ils doivent soutenir une candidature forte pour le poste de secrétaire général. Une personne qui saura apporter l'engagement, la force d'âme et la vision nécessaire pour faire reculer tout État membre, tenter de remettre en cause les droits humains. Pour cela, il faut veiller à ce que le processus électoral soit équitable et transparent et à ce que les positions des candidats sur les principaux défis en matière de droits humains auxquels l'ONU est confrontée soient connues et comprises. Voilà donc ce petit résumé sur la situation générale des droits humains. Donc, en conclusion, je crois qu'on n'a pas fini de parler des droits humains à la radio sur Principe Actif. C'est clair qu'il nous reste encore énormément de travail. Et Claire-Lise va vous compléter ce que je viens de dire avec un petit mot sur les droits humains en France, qui est aussi dans ce rapport.
Donc, 5 choses à savoir sur les droits humains en France. Donc, l'état d'urgence, la liberté d'expression, les discriminations, la protection des migrants et des demandeurs d'asile, l'impunité, la responsabilité des entreprises. Donc, c'est un coup de projecteur sur les droits humains en France en 2015. Lutte contre le terrorisme, la sécurité au détriment des droits. Renforcement de la surveillance, blocage de sites internet, poursuite pour apologie du terrorisme, recours à des perquisitions et assignations à résidence sans contrôle du juge, interdiction de manifestation. Donc, ces lois et mesures d'exception ont été prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en France. Donc, vous le savez tous, depuis novembre 2015. Elles ont porté atteinte de façon disproportionnée aux droits et libertés individuelles et ont parfois été mises en œuvre de façon discriminatoire. Il y a un rapport d'Amnesty qui a été écrit maintenant depuis 3-4 mois d'état d'urgence en France, oui, qui fait état dans des tas de villes de France de comportements de la police, entre autres, sur des personnes qui ont été suspectées et qui ont été... Ça, je ne trouve pas mes mots, moi.
Qui ont vu leurs droits fondamentaux malmenés, voilà, assignés à résidence, obligés de pointer à la police, enfin, etc., etc. Alors qu'en fait, ils n'étaient pas liés au terrorisme, c'était supposé l'être. Dont des gens qui étaient des militants écologistes, par exemple, qui ont subi la même conséquence. Le rapport s'appelle « Des vies bouleversées ». Et vous pouvez le trouver en ligne sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Vous avez le rapport en ligne qui est disponible, téléchargeable comme vous voulez, et qui fait le point sur 80 cas, je crois, quelque chose comme ça, effectivement, d'atteinte aux droits fondamentaux via l'état d'urgence. On en parlait au début. Voilà.
Alors, crise des réfugiés, le devoir de protection des personnes négligées. Les guerres et les persécutions continuent de forcer des millions de personnes à fuir leur pays. Il y a actuellement plus de 20 millions de réfugiés dans le monde. En 2015, 1 million de personnes sont arrivées en Europe par la mer, souvent au risque de leur vie. L'Europe et la France ont échoué à leur offrir des voies légales et sûres leur permettant de voyager en sécurité. En outre, les réfugiés sont souvent laissés dans des conditions de vie indignes, comme à Calais. Alors les réfugiés, il en arrive partout en France, dans les villes. Et je vous en reparlerai un petit peu, parce qu'à Évreux aussi, il y a des choses qui sont, comment dire, dérangeantes,
oui.
Pour le moins.
Pour le moins, effectivement.
Discrimination, la France peut mieux faire. En France, la politique menée pour résorber les bidonvilles repose encore et toujours sur des expulsions forcées aux conséquences humaines désastreuses. Une politique inefficace et coûteuse qui doit céder la place à des logiques d'accompagnement et d'accès aux droits des personnes. Par ailleurs, les personnes transgenres se heurtent à un vide législatif pour changer leur état civil. Tributaires du bon vouloir des tribunaux, elles sont nombreuses à renoncer à changer leur état civil ou à subir des processus de transformation physique pour y accéder. Là encore, c'est en France en 2016. Impunité. L'inquiétant accord franco-marocain. Décidément, c'est le mois des accords, l'année des accords, parce qu'on va vous parler de l'accord de l'Union européenne avec la Turquie tout à l'heure.
Mais nous, donc, en gros, on n'est pas d'accord avec ces accords.
Non, on n'est pas d'accord du tout. Donc la France a signé un accord bilatéral de coopération judiciaire en matière pénale avec le Maroc, notamment en cas de plainte visant un ressortissant marocain présumé responsable de torture. Ce texte favorise l'impunité pour les responsables marocains suspectés de graves violations des droits humains. Youpi ! Alors, responsabilité des entreprises, le Sénat fait l'autruche. Donc, une proposition de loi destinée à garantir le respect des droits humains par les entreprises multinationales et leurs filiales et leurs sous-traitants a été approuvée par l'Assemblée nationale en mars 2015. Suite à une campagne d'Amnesty International appelant le gouvernement à ne plus faire l'autruche. Mais le Sénat a rejeté ce texte en novembre 2015.
Oui. Enfin, il y a une suite pour cette info-là. Il y a une suite, c'est que c'est repassé à l'Assemblée et l'Assemblée nationale, pour la deuxième fois, vient de revoter la loi.
Le 24 mars.
Voilà. C'était effectivement la semaine dernière. Donc la loi est repartie pour un tour entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui. On finira peut-être par y arriver un jour.
Hein. Mais il y a une pression sur l'Association française des entreprises privées que je ne sais pas qu'ils appellent la FEB.
Bah, ils n'aiment pas que les droits humains s'intéressent à ce qu'ils font, leur petit tripatouillage dans les succursales internationales.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Quoi ? On n'a plus le droit de faire travailler les enfants ? Ah
non. Bon. Ouais. On voulait vous parler de la Syrie, c'est ce qu'on va faire. Et dans la dernière chronique, il y a un article qui est paru. Alors ça va être un petit peu long, on va essayer de vous le lire assez vite, mais parce qu'elle retourne comme d'habitude. Un article qui est paru dans la chronique. Je vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. C'est une mine de renseignements tous les mois, et vous pouvez, vous, même si vous n'êtes pas membre de l'association, vous pouvez vous abonner. Il y a un formulaire sur le site. Vous pouvez vous abonner, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est une interview d'un politologue qui est d'origine libanaise et qui est enseignant à l'université américaine de Paris. Il s'appelle Ziad Majed et il a donné une interview donc dans la dernière chronique sur la situation en Syrie. Et ce qu'il raconte effectivement est suffisamment parlant pour comprendre un peu mieux la situation et un peu mieux que ce que racontent les fameux experts dont j'ai parlé au début de l'émission et qui en général n'expliquent pas grand-chose. Donc on va faire ça sous forme de dialogue. C'est Ronan qui va jouer le journaliste. Et c'est moi qui vais donc prêter ma voix à Ziad Majed.
Quel est le rapport de force en Syrie 5 ans après le début de la guerre ?
L'intervention directe des Russes à partir du 30 septembre 2015 l'a changé en faveur du régime. Ce dernier se trouvait aux abois, ayant perdu l'année dernière des territoires importants au profit de l'opposition. Les opposants s'approchaient du fief alaouite des Assad, c'est le président, je rappelle, sur le littoral. En 4 mois, les frappes russes sont parvenues à desserrer l'étau autour du régime, causant la mort de plus de 1200 civils dont l'ONU n'a jamais parlé. Plus de 88 de ces raids russes vise l'opposition et seulement 10% Daesh.
Pourquoi entend-on parler davantage des massacres perpétrés par l'État islamique que ceux du régime ?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 190 000 civils tués par le régime, donc de Bachar el-Assad, 2300 par Daesh. Presque chaque jour, des barils d'explosifs sont largués par les hélicoptères du régime. Des prisonniers politiques meurent sous la torture dans ces geôles. Des civils décèdent, affamés dans des zones assiégées depuis de longs mois. Mais ces victimes de la machine de mort d'Assad sont de plus en plus invisibles. L'État islamique, lui, veut occuper tout le temps la une, que ce soit par une attaque terroriste, une exécution ou un communiqué terrifiant. Cette stratégie de communication fonctionne très bien. La plupart des médias occidentaux sont attirés par le sensationnalisme et les clichés faisant référence à la barbarie de leur Orient imaginaire, entre guillemets. Daesh fournit une qualité d'image, aussi entre guillemets, de l'horreur avec une mise en scène hollywoodienne et maîtrise ainsi les réseaux sociaux. Ses militants animent des dizaines de milliers de comptes Twitter et Facebook. D'autre part, l'État islamique s'attaque aussi aux Occidentaux, sachant que l'on se mobilise davantage pour Paris que pour Deir el-Zor ou Raqqa. C'est ce qu'on disait aussi au début. Ce qui m'inquiète dans ce rapport occidental au massacre, c'est le message indirectement envoyé à la région. Les civils syriens ne sont que des dommages collatéraux. Leur vie ne valent rien. Le régime qui les tue peut s'en sortir si nos intérêts l'exigent, car notre seul ennemi est Daesh. Le discours de l'État islamique « Nous, les musulmans, ne comptons pas dans ce monde » risque de se trouver renforcé.
Sur quoi repose encore le régime de Bachar ?
Il dispose d'une étroite base sociale, une majorité d'alaouites, de chrétiens et de membres d'une bourgeoisie affairiste sunnite. Mais la communauté alaouite est fortement éprouvée. Proportionnellement, son poids dans la population syrienne, 10%, elle a subi de lourdes pertes autour de 60 000 combattants. Nombre de jeunes alaouites fuient le service militaire à durée indéterminée. Cette base sociale minoritaire ne peut plus protéger un régime désormais à la merci de ses deux alliés, l'Iran et la Russie. L'Iran veut maintenir Assad au pouvoir pour assurer ses alliances régionales, le Hezbollah libanais et le gouvernement de Bagdad, et pour maintenir sa suprématie face aux Saoudiens. Pour les Russes, il s'agit moins d'un lien avec Bachar qu'avec l'appareil sécuritaire et militaire de Damas. Beaucoup de généraux ont été formés par les Soviétiques, puis par les Russes. Après avoir perdu l'Irak et la Libye, Moscou ne veut pas renoncer à l'un de ses derniers alliés dans la région. Sa seule base militaire en Méditerranée se trouve près de Latakia, en Syrie. Par ailleurs, septième client de l'industrie militaire russe. Si Poutine veut revenir sur la scène internationale, c'est aussi en se montrant capable d'intervenir au-delà de l'Ukraine et de la Géorgie. Et l'Église orthodoxe russe, proche du Kremlin, se prétend protectrice des minorités chrétiennes en Orient et à ce titre soutient le régime de Bachar. Enfin, la Russie craint une contagion islamiste dans le Caucase.
Pourquoi l'opposition syrienne est-elle à ce point fragmentée ?
Dans le système totalitaire syrien, l'opposition était dénuée d'expérience politique. Les opposants se réunissaient depuis la fin des années 70 de façon clandestine. Après avoir déjoué la surveillance des Moukhabarat, alors les Moukhabarat, ça veut dire, je vais vous le dire, les services de renseignement du régime. Comme toute dictature, bien sûr, c'est la police secrète. Il faut imaginer un pays dans lequel régnait une suspicion généralisée. Les gens étaient éduqués à ne pas faire confiance aux autres de peur qu'ils n'écrivent des rapports. Les profs bassistes, c'est le parti au pouvoir, posaient parfois des questions pièges à leurs étudiants pour sonder l'opinion de leurs parents. Ça, c'est cool. Au début de la révolution, des opposants me confiaient ne pas avoir l'habitude des assemblées publiques ni des discours à voix haute dans les cafés. Le mouvement social de 2011, c'est là où ça a commencé, a été spontané, sans chef. Ceux qui auraient pu le devenir ont été assassinés ou arrêtés par le régime. Puis la militarisation a créé ces jeunes chefs de guerre éloignés des représentants politiques en exil à Paris, Istanbul ou Riyad. De plus, les acteurs régionaux, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, ont essayé de contrôler cette opposition syrienne et les Occidentaux ont tenté de se trouver leur champion selon leurs propres critères, ce qui a créé des tensions et n'a pas facilité la tâche des opposants. Ceci dit, il y a une part de responsabilité chez ces opposants qui n'ont pas été à la hauteur du courage et de la détermination de leur peuple.
L'État islamique trouve-t-il des soutiens au sein de la population syrienne ?
La population locale syrienne, jusque récemment, percevait Daesh comme une occupation étrangère, une sorte de colonisation. Les chefs de l'État islamique sont irakiens, les leaders militaires irakiens et tchétchènes, les chefs religieux saoudiens, tunisiens, il y a aussi beaucoup d'Européens. Donc il existe une colère locale contre Daesh. Les régions contrôlées par l'État islamique sont soumises à un état de siège, à des bombardements du régime, de la coalition internationale, des Russes, ce qui empêche le développement des dynamiques de résistance. D'un autre côté, beaucoup d'activistes ont fui ou sont emprisonnés par Daesh. Il faut préciser que l'État islamique a aussi créé des emplois. Il paye des salaires, tisse des liens au sein de la société. Ces émirs, entre guillemets, ont imposé des mariages mixtes entre ceux qu'ils appellent des moudjahidines, ils s'appellent les immigrés, et les ansars, les Syriens, reprenant un vocabulaire utilisé du temps du prophète. Daesh récupère également des ex-agents de renseignement du régime. Quant aux tribus de l'Est syrien, pour s'imposer, l'État islamique a joué les unes contre les autres, accordant des privilèges à certains chefs tribaux, notamment dans la gestion des puits de pétrole. Le pétrole syrien constituait une bonne ressource de financement, mais avec la baisse du prix du baril, Daesh se finance davantage par le biais de rançons, taxes, biens confisqués, et semble avoir récemment baissé les salaires des fonctionnaires et de ses combattants.
Les négociations ouvertes en janvier à Genève, sous l'égide de l'ONU, peuvent-elles aboutir ?
L'action de l'ONU est désormais symbolique. On entre dans une phase nouvelle. Moscou a rempli le vide laissé par le retrait relatif des États-Unis et l'impuissance de l'Union européenne. Les Russes bombardent et modifient la situation sur le terrain, tout en appelant à négocier sous le drapeau onusien à Genève.
Que penser de la politique française à l'égard de la Syrie ?
Du point de vue des principes, la position de la diplomatie française a été la plus équilibrée. Ni Assad, ni Daesh, mais un soutien à l'opposition. Malheureusement, la France n'a toujours pas les moyens de concrétiser. L'épisode de l'été 2013, suite aux attaques chimiques du régime contre les civils dans les banlieues de Damas et l'incapacité française de réagir après les rétractions américaines, était révélateur. Même chose lors de l'interdiction de livrer des missiles anti-aériens à l'armée libre, quand la révolution s'est militarisée en 2012. Le régime a depuis le champ libre, dans les airs, la population en a souffert. Beaucoup de combattants de l'armée libre se sont sentis abandonnés et certains ont alors préféré les actions islamistes mieux armées et mieux financées. Les factions islamistes mieux armées et mieux financées. Quant à l'accueil des réfugiés, les Français sont loin derrière les Allemands et les Suédois. On va vous en parler. La France, cependant, peut encore jouer un rôle fort important en investissement dans le domaine juridique. Le parquet de Paris enquête sur le dossier César, nom de code d'un photographe de la police militaire syrienne qui a fait défection en 2013, emportant avec lui des clichés de milliers de cadavres de détenus torturés, affamés ou exécutés. Il existe des dossiers sur ces massacres, des viols collectifs et d'autres crimes contre l'humanité commis par le régime Assad. Il faut avancer à ce niveau. En laissant impunis ces crimes, on laisse entendre que les criminels peuvent échapper à la justice dans cette partie du monde et on risque de créer plus de murs entre les sociétés au détriment des valeurs universelles. Voilà. Bon, c'était un petit peu long, mais je crois que c'est un éclairage important par rapport à ce qui se passe et qui permet de comprendre effectivement beaucoup de choses. Et il y a Clairlys qui meurt d'impatience de vous en parler aussi.
Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'accord franco-marocain. Je vais vous parler donc de cet accord qui vient d'être signé le 18 mars hein, entre l'Union européenne et la Turquie, qui est un accord de la honte sur le dos des réfugiés, et notamment des réfugiés syriens. Donc je vais commencer par un petit passage là, où, qui s'appelle « Les réfugiés ne sont pas des marchandises, une marchandise ». Alors les barbelés, les gaz lacrymogènes, les conditions épouvantables de vie aux frontières ne suffisaient pas. Les dirigeants européens franchissent un nouveau cap pour trouver une solution, entre guillemets, à la crise de l'accueil des réfugiés. L'Union européenne a donc conclu, le 18 mars, un marchandage honteux avec la Turquie. Elle prévoit de renvoyer vers ce pays les migrants, les réfugiés syriens qui ont tenté de rejoindre l'Europe en traversant la mer Égée. En échange, pour chaque Syrien ainsi renvoyé, elle acceptera un autre réfugié syrien depuis la Turquie. Pour le dire autrement, un réfugié syrien ne pourra être accueilli en Europe que si un autre réfugié syrien a risqué sa vie en mer. En contrepartie, l'Union européenne ferme les yeux sur les violations des droits humains des réfugiés en Turquie.
Dis-moi, ça ressemble à du marchandage quand même. C'est du marchandage d'êtres humains, ça.
Donc les réfugiés deviennent donc l'objet d'un marchandage. En signant cet accord, les dirigeants européens mettent en péril le droit de solliciter l'asile. Pourtant, ce droit est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les États européens sont tenus de respecter la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Donc ils foulent aux pieds les principes et les valeurs de l'Union européenne en mettant en place des expulsions collectives à ses frontières. La France, qui se proclame terre d'asile, ne peut pas accepter de signer un tel accord. Mais si, elle l'a signé, youpi! Parce que je lis un article qui datait d'avant le 18 mars, alors je le mets à jour au fur et à mesure. Notre pays doit, à ce moment précis, porter haut les valeurs de protection, d'accueil et de solidarité avec toutes celles et ceux qui fuient les persécutions et les conflits. Mais notre pays a signé.
Mais voilà. Oui.
Il n'y a pas un petit youpi, là? Ça sera le troisième.
Non, ça fout les miquettes. Voilà. Il y a longtemps, je ne te l'avais pas dit.
C'est toute la différence entre la théorie et la pratique.
Donc, refuser que les réfugiés deviennent l'objet d'un marchandage, exiger de l'Union européenne qu'elle respecte ses valeurs et ses propres règles, exhorter François Hollande à rejeter au nom de la France cet accord, eh ben voilà,
c'est raté.
Vous êtes des milliers à l'avoir signé, mais pourtant...
C'est raté, c'est passé quand même.
Voilà.
Donc, ce qui a fait dire Amnesty, effectivement, qu'on venait d'enterrer, ce qui est la vérité, on venait d'enterrer, de fait, le droit d'asile en France.
Voilà.
Et oui.
J'étais en train de regarder...
Attends, moi j'ai une petite idée. Hein.
Vas-y, continue.
Renan a une idée. Renan piaffe d'impatience de vous communiquer son idée. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux. Et en fait, en guise de parole, tout à l'heure, Rodan, il a balancé le disque. C'est ça qu'il voulait dire.
On n'a pas écouté le morceau jusqu'à la fin.
Bon. Par contre, on t'entend pas dans ton micro, toi, par contre. Je te signale là, tout de suite.
C'est un peu normal, j'ai oublié de le mettre.
Ah ben voilà. Donc ça marchera mieux si tu branches le micro.
C'est peut-être un petit peu mieux avec le micro. Voilà. Mais je pense aux autres, pas moi, tu vois.
C'était Renan à la technique.
J'avais juste oublié de brancher mon
donc
micro.
On vient d'écouter un morceau que moi
mais
j'aime bien.
Mais c'est pas intéressant ce que je dis d'abord.
D'un groupe que j'aime, j'ai jamais dit ça. D'un groupe que j'aime bien, R.E.M. ou R.E.M. pour les Français, et ça s'appelait Imitation of Life. Voilà. Donc
moi je prends la parole.
Voilà, Renan maintenant il voulait parler avant la musique, donc il va parler après la musique.
Oui, parce que je voulais quand même dire après toutes les mauvaises nouvelles entre guillemets qu'on a eues ce soir, il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles. Donc je vais commencer par l'Égypte. Mahmoud Hussein enfin libre. Après plus de 2 ans de détention, sans procès, ce jeune étudiant de 20 ans a été libéré dans la nuit du 24 au 25 mars 2016 et a pu retrouver sa famille. Donc c'est une excellente nouvelle pour les dizaines de milliers de sympathisants d'Amnesty International qui seront mobilisés ces 2 dernières années pour voir ce jeune prisonnier d'opinion enfin libre. Et qu'avait-il fait pour être en prison?
Mais justement, tu vas nous le dire.
Ah, il avait simplement porté un t-shirt demandant voilà. Une nation sans torture ainsi qu'une écharpe à l'effigie de la révolution du 25 janvier. Et pour ça... Ça fait 2 ans qu'il était en prison.
Voilà. Porter un t-shirt peut amener en prison.
Voilà.
Comme faire du vélo, comme pour les femmes qui font du vélo en Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite. Bon, mais en Iran, je ne crois pas que c'est mieux. Bon, donc une autre de bonne nouvelle, c'est la chambre de première instance du tribunal pénal, attention, ça devient sérieux, pour l'ex-Yougoslavie, a déclaré Radovan
Karadžić
coupable de génocide contre l'humanité en raison du rôle qu'il a joué dans le conflit armé, à la fois pour sa responsabilité individuelle et pour sa participation à une entreprise criminelle conjointe.
Il avait participé à la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie.
Donc, il a été condamné à 40 ans d'emprisonnement. Alors, je ne sais pas quel âge il a actuellement, mais bon.
Oh, il doit avoir... Il a dépassé les 50 ans. Hein. Oui, oh, oui, facile. Ouais, non, 40 ans de prison, même s'il y a des remises de peine, je pense qu'il mourra en prison.
Voilà, c'était surtout ça que je voulais entendre.
Personnellement, ça ne me fera pas vraiment plaisir.
Ouais, c'est surtout ça que je voulais entendre. Allez, une petite dernière. Jean-Pierre Bemba, enfin condamné. Alors, c'est qui Jean-Pierre Bemba? C'est une victoire historique pour les victimes de violences sexuelles. Jean-Pierre Bemba a utilisé le viol contre une arme de guerre en RDC.
Donc, il a été... République démocratique du Congo.
Tout à fait. Il a été condamné pour violences sexuelles. Et c'est une première pour la CPI qui est la Cour pénale internationale.
Voilà, c'est la première fois qu'effectivement un militaire, ou je ne sais pas ce qu'il était exactement, ce monsieur-là, oui, enfin, qui utilisait le viol comme arme de guerre. Il y a vraiment des gens qui ont des idées sordides. C'est effectivement condamné par rapport à ça, ce qui peut créer, enfin, j'ai lu quelques articles là-dessus, ce qui peut créer, en plus de la décision de justice, une sorte de juridiction internationale. On va enfin, parce que tenez-vous bien, le fait d'utiliser le viol comme arme de guerre, c'est pas récent.
Oh que non.
C'est plutôt généralisé depuis quelques dizaines d'années, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ça peut enfin être considéré comme effectivement quelque chose qui est un crime en soi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce n'était pas considéré comme un crime en soi. Voilà.
C'est bon, maintenant je vous laisse la parole, je ne dis plus rien.
Il ne dit plus rien. Sabine. Non, j'appelle Clarlis Sabine. Non, Sabine nous a abandonné un peu plus tôt. Mais il ne dit plus rien.
C'est pas l'accent espagnol.
Bon, non.
Vas-y, Clarlis.
Alors, je vais le faire sans papier, donc j'espère que je vais pas me tromper. Juste vous appeler à consulter le site d'une association qui est amie, c'est RESF, Réseau d'éducation sans frontières, donc RESS 27. Et il y a actuellement une pétition que vous pouvez signer en ligne. Alors, je suis désolée parce que je le fais de mémoire, j'ai pas pris de papier. Et je me souviens plus le nom de la famille concernée, mais c'est une famille d'origine africaine qui risque d'être expulsée et dont les enfants sont scolarisés. Donc, vous savez que RESF, c'est une association qui s'occupe plus principalement de s'occuper des personnes avec des difficultés pour leur papier, mais surtout par rapport aux enfants qui sont scolarisés. Et donc, ces deux enfants, les enfants sont scolarisés et ils risquent d'être expulsés avec leur père. Et donc, il y a un appel à pétition, puisque c'est quelqu'un qui est intégré socialement et culturellement depuis plusieurs années à Évreux. Et ça, enfin voilà. Donc, il y a un appel à pétition si vous pouvez aller sur leur site. Et je voulais parler aussi de mon expérience, puisque je fais partie aussi du CEFED, Asti d'Évreux, et de l'accueil qu'on peut faire le samedi matin sur les personnes qui se présentent pour la première fois au CEFED. Et nombre de plus en plus important de personnes qui sont rejetées du droit d'asile. Donc il y en a beaucoup. Donc les gens, quand ils sont en attente pour avoir... qu'ils ont fait un dossier à l'OFPRA, ils bénéficient de ce qu'on appelle le CADA. Et quand leur demande est rejetée parce qu'ils font un recours auprès de la CNDA, ils ne bénéficient plus après du CADA. Et il y a énormément de gens qui se retrouvent à la rue.
Et tu parles bien d'Évreux, là.
Je parle d'Évreux. Et en 2016, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue. Et bon, forcément, il y a des associations caritatives, il y a des organismes sociaux qui sont là, qui essayent de trouver des solutions. Mais malheureusement, il n'y a pas des solutions pour tout le monde. Et en ce moment, quand on appelle le 115, il y a des femmes enceintes qui sont à la rue dans Évreux actuellement. La semaine dernière, il y en avait 5-6 situations comme ça de jeunes femmes qui ne trouvaient pas de lieu d'asile pour la nuit. Donc moi, j'ai accueilli une jeune femme d'origine ivoirienne, par exemple, qui est en France depuis 10-15 jours, qui se retrouve à Évreux, qui est enceinte et qui... tous les jours à appeler le 115, mais malheureusement, il n'y avait pas de solution et c'est quelqu'un qui se retrouvait à la rue. Donc, on fait appel aux organismes caritatifs. Il y a une église sur Évreux qui reste ouverte, où il y a des migrants qui peuvent être accueillis. Mais il y a quand même des solutions, enfin des situations qui sont dramatiques et pour lesquelles il y a peu de solutions et peu de moyens en ce moment à Évreux.
Ouais. Et ça se passe chez nous à l'heure actuelle, c'est clair. Ouais. Donc voilà, ben merci Clarisse pour ces informations. On peut soutenir aussi le CFED, hein, le collectif français étranger pour l'égalité des droits. Tu m'interromps si j'écorche ton nom, c'est ça. Et donc qui fait une action, effectivement. Et on allait finir l'émission, mais non, on va quand même pas oublier de vous parler de notre actualité locale. On a un rendez-vous important. Notez-le sur vos agendas tout de suite. Le samedi 23 avril, donc le mois prochain, ça va venir très vite. Et le dimanche 24, le samedi 23 de 14 à 18h et le dimanche 24 de 10h à 17h, nous faisons une deuxième foire au livre au lycée Léopold Sédar Senghor. On avait fait la première l'année dernière. Nous recommençons cette année. Donc on vous attend. On a des milliers de livres à vous proposer à un prix très modique. Et on a aussi, bien sûr, des rencontres à faire et des actions à vous proposer si vous voulez nous soutenir. Le samedi 23 avril, 14h-18h, dimanche 24, 10h-17h au lycée Sédar Senghor. C'est sur l'esplanade du Canada à Évreux. C'est très facile à trouver. Bien sûr, l'entrée est gratuite. On vous attend nombreux, le plus nombreux possible pendant ces deux jours. Merci de penser à nous. Et on se retrouve le mois prochain. C'est quand, Ronan ?
Ah, t'as voulu m'avoir.
Non, je t'ai pas eu.
Le mardi 26 avril.
Mardi 26 avril, en direct sur l'antenne de Principe Actif, 19h-20h. Notre ami du laboratoire étant arrivé, on le salue tout de suite. On lui laisse le micro. À bientôt.
Et bonne soirée à tous.